semaine dernière. C'est correct. Ça. Merci. Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait et prendre cette occasion là, pour le louer. Je veux d'abord saluer, je vous salue à vous et je veux saluer l'Église d'Orléans qui nous écoute maintenant. Alors, on peut peut-être donner une main d'appréciation pour cette belle Église d'Orléans. Je pense que si on tape très fort, ils vont nous entendre. Alors, on vous salue, l'Église d'Orléans. On prie pour vous et on apprécie tout ce que vous faites là-bas. Un beau ministère. Jean-Sébastien me racontait justement qu'il était allé prêcher là la semaine dernière. Deux requêtes de prière. Je cherche peut-être Sylvain et peut-être au deuxième service. À Kevin, plutôt. Julie, qui est rentrée à l'hôpital, Julie Robitaille, a vraiment besoin de nos prières. Je pense que c'est aujourd'hui. Elle est rentrée l'autre jour d'urgence. Et puis, elle est sur un appareil, un respirateur. Et puis, les médecins ont décidé aujourd'hui qu'ils enlèveraient la machine, le respirateur. Donc, il y a deux choses. L'une, il est possible, on espère, les médecins espèrent qu'elle reprenne, qu'elle commence à respirer d'elle-même. Sinon, ça sera tragique. Et donc, on veut certainement prier pour eux, prier pour Julie, que son système puisse vraiment là, prendre le dessus puis qu'elle soit capable là, de pouvoir respirer. Je parlais à Sylvain hier, et puis certainement, il est très préoccupé par l'état de sa femme. Madame Laure aussi, qui est rentrée à l'hôpital, et je parlais à M. Laure hier, et prions pour elle. Ils ont besoin de nos prières. Eh bien, prions, d'accord? Seigneur, nous voulons te remercier pour tes grandes bontés. Comme on l'a chanté ce matin, on veut te remercier pour tout ce que tu fais. On veut élever ton saint nom pour ta grande bonté. On te prie que tu puisses mettre ta bonne main sur nos deux sœurs, Julie et Mme Lord. Que tu puisses mettre ta main sur eux, sur les médecins. Que tu puisses guider, donner de la force à leur corps. Aider Julie à respirer aujourd'hui. Et on te prie que tu puisses intervenir dans cette situation, fortifier les maris, la famille. Et on te prie ce matin, alors qu'on regarde ce thème si important de l'action de grâce, que tu puisses remplir nos cœurs de reconnaissance envers toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tes grandes bontés. Au nom de Jésus. Amen. Une jeune fille du nom de Anne Voskamp était toute jeune alors qu'elle a perdu sa sœur. Sa sœur est décédée. Évidemment, ça a été très difficile pour les parents. C'est une expérience douloureuse que de perdre un membre de la famille. Mais les parents ont vraiment géré avec difficulté et même, on pourrait dire, ils ont mal géré ce deuil, cette perte qui était très douloureuse. Mais si bien qu'à ce moment-là, les parents ont pris une décision qui allait affecter la vie de Anne pour des années à venir. À ce moment-là, les parents de Anne ont pris la décision qu'ils étaient pour rejeter Dieu, s'éloigner de Dieu, s'éloigner de l'Église, tout abandonner la foi, parce qu'ils avaient un cœur plein de colère et d'amertume, parce qu'ils avaient perdu leur fille. Cette décision allait affecter la vie de leur autre fille, Anne, pendant des années à venir. Anne raconte qu'elle n'a pas vu ça venir, ça s'est fait insidieusement, mais la colère et l'amertume, ce sentiment dépressif de vaincu très lourd de ses parents, tranquillement s'est infiltré jusque dans son cœur. Ce qui allait affecter sa façon de voir la vie, colorer toute sa façon de voir. Et fait que cette amertume, elle a commencé à remplir son propre cœur. Son cœur est devenu amer. Elle a commencé à avoir un esprit dépressif, découragé, esprit de vaincu. Et ça devenait de plus en plus lourd pour elle. Elle a passé l'adolescence, à travers la jeunesse et aussi dans la vingtaine, avec ce même sentiment d'amertume et de colère. Elle s'est mariée à un Canadien, un fermier, un éleveur de porcs. Elle a eu des enfants, plus de 6 enfants. Et alors que ces belles expériences de famille auraient dû remplir son cœur de joie, ce n'est pas ce qui est arrivé. Au contraire, ce sentiment amer et ce découragement, cet esprit de colère au fond de son cœur a simplement pris de plus en plus de place, si bien qu'elle était découragée, pessimiste, dépressive. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'elle a appris qu'elle avait le cancer. Elle est vraiment sombrée à ce point-ci, sombrée dans un désespoir, dans un découragement très difficile. Deux jours après d'avoir appris qu'elle avait le cancer, elle est entrée dans un centre de soins esthétiques pour voir une affiche, une annonce où c'était écrit « 1000 choses à voir avant de mourir ». Elle a dit « Tiens, c'est ça que j'ai besoin. Ça va me faire du bien. » Mais voilà que quelques jours après, elle rencontre une femme qui la met au défi. La femme lui dit « Anne, au lieu d'essayer de trouver de la joie dans des choses que tu n'as pas, pourquoi ne pas essayer de découvrir de la joie dans des choses que tu as déjà? » En d'autres mots, au lieu de faire une liste de 1000 choses à voir, pourquoi ne pas commencer à faire une liste de 1000 choses que tu as déjà et pour lesquelles tu es reconnaissante? Anne a dit, d'accord, elle a dit, j'aime ça, je vais relever ce défi-là. Alors elle s'est assise, elle a ouvert son journal, elle a commencé à écrire. 1000 choses, écoutez, c'est beaucoup 1000. Entre vous et moi, je ne sais pas si, comment vous êtes, vous autres, mais moi, si je m'assoyais et je commençais à écrire des choses pour lesquelles je suis reconnaissant, je ne sais pas jusqu'où je me rendrais. Je n'ai pas de problème à aller jusqu'à 10. Ça, je sais, je pourrais aller à 10. 15, 20, elle met 1000. Elle a commencé avec les grandes choses. Après ça, tranquillement, elle est arrivée avec les petites choses, les petits détails. Elle raconte son expérience, puis elle dit, il y a quelque chose qui s'est produit alors que j'étais en train d'écrire. Alors que j'étais en train d'écrire les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, j'ai commencé à sourire. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas eu vraiment dans son cœur comme de la joie. Mais il y a quelque chose qui a commencé à s'opérer dans son cœur comme une guérison qui a commencé à s'opérer dans son cœur alors qu'elle était en train d'écrire son journal et de mettre tous les petits détails pour lesquels elle était reconnaissante. Elle a dit, il y a quelque chose qui s'est passé, mon attitude a pris un virage radical. Et j'ai redécouvert le Dieu de la grâce. Ça m'a changé du tout au tout. Sa vie à ce moment-là a basculé. Depuis des années, elle avait dans son cœur de l'amertume, un esprit amer, défaitiste, pessimiste. Elle avait de la colère. Et là, tranquillement, son attitude dans son cœur a commencé à changer. Anne Voskamp a pris tout ce qu'elle a écrit, a transféré ça dans un livre disponible en français, qui s'appelle « 1000 cadeaux ». Être reconnaissant envers Dieu, un défi quotidien. Ce qu'Anne Voskamp a découvert, c'est une vérité tellement puissante. Et cette vérité-là qui est puissante, qui va avoir un impact sur chacun d'entre nous, se trouve dans les Écritures, insérée dans les Écritures saintes, insérée dans la Bible. Ça a toujours été là, dans les Écritures. Voici cette vérité qui est très puissante et qu'on a besoin d'apprendre, chacun d'entre nous ce matin. C'est la puissance d'un cœur reconnaissant. La puissance d'un cœur reconnaissant. Ça se trouve à plusieurs endroits dans les Écritures. On va trouver ça souvent dans les psaumes, souvent dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, et on va le voir dans le Nouveau Testament, on va le voir évidemment, Jésus qui va en parler souvent, même avec des histoires, comme une métaphore avec, pas une métaphore, quand il raconte l'histoire, ce miracle avec les lépreux. Mais s'il y a un endroit qui fait ressortir la puissance de cette vérité-là, c'est bien chez Paul, dans une de ses lettres, la lettre de Paul aux Philippiens. La puissance d'un cœur reconnaissant. Alors, j'aimerais vous encourager à tourner avec moi dans la lettre aux Philippiens. On va tourner ensemble dans Philippiens chapitre 4. « Philippiens chapitre 4. On va commencer la lecture au verset 4, et on va lire jusqu'au verset 9. Donc, Philippiens chapitre 4, verset 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste et tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Moi, j'aimerais qu'on revienne ensemble à un verset, le verset 6, qui dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu » par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, une attitude d'action de grâce. Alors, tout d'abord, vous avez la situation. Nous avons tous des situations. Nous vivons tous des choses à notre manière, qu'elles soient grandes, des fois plus petites, plus grandes, mais c'est la situation dont Paul parle peut s'appliquer à chacun d'entre nous. La situation. Nous avons ici la situation. Juste même dans la lettre aux Philippiens, on peut parler de quatre situations. Juste avant, Paul va parler de deux femmes qui travaillaient pour le Seigneur, qui servaient le Seigneur, qui étaient impliquées à faire avancer l'œuvre de Dieu dans leur église locale à Philippe. Maintenant, ils se sont pognés, ils ne sont plus capables de s'entendre, ils se sont chicanés, et il n'y a plus moyen qu'elles travaillent ensemble. Écoutez, c'était deux femmes très impliquées, là. Il y a bien des gens impliqués dans l'Église, et Dieu merci. Mais c'est à peu près comme si Georgine puis Suzanne, là, qui servent beaucoup le Seigneur, on aurait pu nommer d'autres personnes. Mais maintenant, c'est comme si Georgine et Suzanne se pognent ensemble. Paf! Une chicane, là. Viens pas de mon bord, ma cuisine, là. Reste à ton bord. Moi, je vais rester sur mon bord. Dépasse pas la ligne en plein milieu. Fais tes affaires, je fais mes affaires. C'était rendu là, là. Deux femmes très impliquées dans l'Église qui se pognent, qui se chicanent, qui sont plus capables de s'entendre. Tellement que Paul va être obligé d'intervenir publiquement. Écoute, c'était rendu assez gros, là. Ça, c'est une situation. Une relation brisée. Relation brisée. Une autre situation, juste avant ça, on parle ici des gens qui essayaient d'influencer des personnes dans l'Église. Ça, c'est une autre situation. Où les gens étaient un peu perplexes, préoccupés, insécures. Se questionnait et Paul dit faire attention. D'autres situations juste avant ça, ça parle de la persécution. Il y a des gens dans l'Église qui avaient des temps difficiles parce qu'ils étaient persécutés. Il n'y avait pas de loi qui protégeait les chrétiens à ce moment-là. Et là, il y avait de la pression qui se faisait sur plusieurs familles de l'Église. Une autre situation, la persécution difficile, le rejet, le mépris. Une autre situation juste avant ça, l'apôtre Paul va parler de sa propre situation au premier chapitre, alors qu'il est en prison, puis il va écrire, il dit, je ne sais même pas si je vais être libéré, si je vais vivre ou si je vais être libéré. Une autre situation, la peur de la mort, la préoccupation de la mort, savoir ce qui va se passer. Alors, le principe que Paul va parler ici s'applique à toutes les situations. Ça s'applique à votre situation. Alors, on va vivre des situations qui vont être différentes. La personne qui est à côté de vous, en ce moment, est peut-être en train de gérer une crise dans sa propre vie. C'est peut-être une grosse situation. Peut-être que c'est vous qui vivez ça. Peut-être que la personne à côté de vous vit une situation moins grave que la vôtre. Mais pour vous et pour elle, c'est votre situation et c'est gros parce que c'est vous qui devez la gérer. La douleur, la souffrance, c'est une réalité qu'on va éprouver à un moment ou l'autre. Et il faut se préparer pour ça, savoir comment gérer ça, quoi faire. Et ici, on a le principe. C'est une réalité. On sait intuitivement qu'on va un jour ou l'autre passer à travers ces moments éprouvants. Shakespeare l'a bien rendu, il savait bien. Dans une des pièces de théâtre qui s'appelle Macbeth, il y a un personnage qui s'appelle Macduff, et voici ce qu'il va dire. Il dit: chaque matin, de nouvelles veuves hurlent, de nouveaux orphelins sanglotent, de nouvelles douleurs frappent la face du ciel. Tim Keller vient d'écrire un livre, ça vient de sortir, je suis en train de le lire, ça s'appelle « Marcher avec Dieu à travers la douleur et la souffrance ». Et voici ce qu'il dit. Il dit « Aucune somme d'argent, aucun pouvoir, aucune planification ne pourra nous empêcher de connaître le chagrin, la maladie, les relations brisées, le sentiment de trahison ou le désastre financier. Tu as beau vouloir planifier tant que tu veux, ça va arriver, on va les vivre. Allez demander à la famille de démarrer cette semaine. » Une évaluation à plus de 4 milliards de dollars, une valeur personnelle de 4 milliards. Et pourtant, la famille est dans le deuil cette semaine et vit dans le chagrin de la perte de papa et du mari. Cette réalité frappe, c'est une réalité qui est là, constante. Nous allons tous connaître des moments éprouvants. Et c'est ce qui explique la quantité de passages qu'on va voir dans les Écritures saintes qui adressent cette question-là. La Bible ne fuit pas ce sujet-là. Elle adresse ces choses-là. Le premier livre de la Bible, on voit dans la Genèse, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite, dans les premières pages, d'emblée, on va voir le mal et la mort qui va entrer dans le monde. Le livre suivant, le livre de l'Exode, on voit 40 ans dans le désert, le peuple qui va passer par des temps de souffrance, de grandes épreuves difficiles. La littérature de sagesse, on voit dans l'Ancien Testament, dédier une grande partie au problème de la souffrance. On voit le livre des psaumes, il y a une prière pour chaque situation difficile auquel on peut être exposé, qu'on peut vivre. Dans le livre des psaumes, on va trouver une prière pour n'importe quelle situation qu'on peut vivre. On pense au livre de Job, l'Ecclésiaste aussi, qui parle de la question de la souffrance et la frustration que ça cause. On parle des prophètes, on pense à Jérémie, à Habacuc qui commence son livre, le premier chapitre. Trois fois, on va voir pourquoi, Seigneur. Adresse la question de la souffrance. Ils se plaignent, voyant l'état du pays. On voit le Nouveau Testament qui recèle le passage qui adresse ces questions-là de la souffrance. On voit Jésus qui est le personnage central de toutes les Écritures, appelé l'homme de douleur. La douleur et la souffrance, c'est un thème majeur dans la Bible, car Dieu sait, c'est une réalité qu'on va vivre. D'ailleurs, on le voit même dans le passage qui nous intéresse ce matin, dans Philippiens chapitre 4. Tout de suite avant, on voit des gens qui souffrent juste avant. On voit deux femmes. Et va dire Saint-Tiche. Ils souffrent parce que leur relation est brisée. Deux femmes qui travaillaient ensemble, qui servaient le Seigneur ensemble, qui avaient du bon temps ensemble, ne sont plus capables de s'entendre. Ils se sont accrochés. Alors qu'ils étaient en train de servir le Seigneur, ils se sont accrochés. Il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, cette relation est brisée. Et Paul les exhorte. Voici ce qu'il va dire. Il va les exhorter. Il dit, « J'exhorte Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. » Voici deux personnes qui avaient besoin d'aide de d'autres membres de l'Église afin qu'elles puissent se réconcilier ensemble. Elles qui ont combattu pour l'Évangile. Maintenant, immédiatement après avoir encouragé ces deux femmes à se réconcilier ensemble, tout de suite après, on voit des exhortations. Paul donne des exhortations. Verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alors, je le répète, « Réjouissez-vous. » 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. » Et 3, il dit, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, nous avons tendance à isoler ces exhortations du passage avant. On les isole. On lit comme, OK, il y a la chicane des deux femmes, puis après ça, Paul commence une série d'exhortations. Mais c'est une erreur. Ça s'inscrit à l'intérieur de ce conflit-là, ces exhortations-là. C'est dans le contexte. Et ces exhortations-là s'appliquent notamment dans une situation où il y a des relations brisées, et comme dans toutes les autres situations qui sont difficiles. Cela étant dit, ce que Paul est en train de nous donner ici, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est comment agir lorsqu'on se trouve justement dans ces situations-là, de conflits difficiles, soit qu'on a une relation brisée ou autre, qui nous rendent anxieux, qui nous stressent, qui nous découragent. Ici, il s'agit d'une relation brisée, mais on peut vivre d'autres situations. Quelle est ta situation à toi? Quelle est ta situation? Nous avons tous des situations différent. Ça peut être la pression, ça peut être les enfants, ça peut être ton emploi, la perte d'argent, comment payer la facture, les factures à la fin du mois. C'est peut-être une relation qui te cause du souci, la peur de ne pas réussir, la peur d'essayer, la peur de mourir. Maintenant, c'est tout à fait normal de se préoccuper de la santé. Mais on ne veut pas non plus se laisser rongé d'inquiétude par ces choses-là. Alors, Paul nous donne un principe ici qui va nous aider et que ça fonctionne. Ça fonctionne. On l'a vu l'exemple avec Anne Voskamp. Le principe prend en compte deux étapes. Deux étapes. Et qu'on va regarder à travers quelque chose qu'on fait tout bonnement à journée longue. Respirer. Vous savez comment respirer? C'est simple respirer, hein? C'est deux étapes. On inspire, on expire. On l'essaye ensemble, à trois, c'est important. Un, deux, trois. Quelques secondes. D'accord. Alors, déjà, c'est bon. Vous avez déjà maîtrisé la technique. Alors, voici la méthode que Paul donne ici pour nous aider. Deux méthodes. Un, inspire la reconnaissance. Inspire une action de grâce. Une chose pour laquelle tu es reconnaissant. Inspire un remerciement, une action de grâce. D'accord? Trouve une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Je suis reconnaissant pour l'air que je respire. Êtes-vous d'accord avec ça? Absolument. Maintenant, pour nous autres, on prend ça pour acquis. Allez demander ça à Julie Robitaille. En ce moment, aujourd'hui, là, la respiration, ça va être clé pour elle. Inspire, je suis reconnaissant pour le soleil. Inspire, je suis reconnaissant pour mes enfants. Lorsque je me suis brisé le pied, c'était cute. J'ai des petits-enfants, comme vous savez, plusieurs petits-enfants. Et j'ai pris une photo, j'étais assis sur ma chaise, j'avais mon plâtre, puis ça avait commencé, j'étais tout installé, puis ça. J'ai pris une photo avec mon iPhone, j'ai pris une photo de mon plâtre, je l'ai envoyé tout de suite par email à mes enfants. Puis là, ça a l'air que chez Julie, ça a été pareil de l'autre côté, chez Katia, ils ont prié aussi pour nous autres, presque chaque jour. Mais c'était vraiment drôle, c'est une anecdote. Ève, ma fille Julie a 7 enfants, puis Ève, qui a 10 ans, elle a vu la photo, puis là, elle a dit, « Bon, là, tout le monde! » Elle a 10 ans. Là. Tout le monde! On arrête, là! On arrête tout, là, parce que là, il faut prier pour grand-papa! Grand-papa s'est brisé le pied! Tout le monde! On arrête! Puis là, tout le monde, tous les enfants, les parents, Julie, Joël, ont commencé à prier pour grand-papa. Puis chaque jour, ils priaient. Puis je recevais des textos. Imagine-toi, ça a commencé, textos, 12 ans. Ariel qui m'envoie des textos, souvent le soir. On prie pour toi. Je prie pour toi, grand-papa. Elle a téléphoné à grand-maman cette semaine, la semaine dernière, puis disait, « Dis à grand-papa, là, je prie pour lui. » Hey, puis la même chose chez Katia, mon autre fille, ça prie pour nous autres. Hey, merci, tu sais, merci Seigneur pour les enfants. Amen. Ah, c'est super. La famille, merci Seigneur pour la famille. Ça, c'est la première étape. Merci Seigneur pour la santé. Moi, ce mois-ci, j'ai jamais autant apprécié mes pieds. Je me suis cassé le pied le mois passé. J'en reviens pas comment se t'occuper cette affaire-là. Aïe. Là, tu essaies de descendre les escaliers avec des béquilles et tout ça. Mon ami, c'est incroyable. Des affaires que vous prenez pour acquis. Les pieds. Quand est-ce que tu as remercié Seigneur pour tes pieds? Hein? Non. Tu vois? Moi, j'ai commencé à remercier Seigneur pour mes pieds. J'ai dit, aïe, Seigneur, tu as bien fait le corps humain. Merci, Seigneur, pour le corps humain. Tu sais, des choses qu'on prend pour acquises. Alors, on inspire une action de grâce. D'accord? On inspire une reconnaissance, un remerciement à Dieu. On inspire. Mais là, il faut que tu expires. Tu veux expirer. Alors, qu'est-ce que tu expires? Tu inspires une action de grâce et tu expires une anxiété sous forme d'une requête que tu présentes à Dieu. Tu la déposes aux pieds du Seigneur. Tu déposes à ses pieds. Tu inspires une action de grâce et tu expires ton anxiété à Dieu et tu la laisses à lui. Tu l'exprimes par contre. Moi, je ne veux certainement pas donner l'impression qu'il faut refouler tout ce qu'on vit puis pas en parler. Non, 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 je me suis mal expliqué si c'est l'impression. Si vous quittez ici aujourd'hui, ce matin, avec cette impression-là, je me suis vraiment, j'ai pas réussi, c'est un échec total, mon affaire. Parce que c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Il faut exprimer ton anxiété. Il faut que ça sorte. Il y a des gens qui parlent jamais. Ils gardent ça en dedans, refoulé en dedans. C'est pas ce qu'il faut faire. Parce que ça non plus, c'est pas bon. Il faut que tu l'expires. Tu l'expires dans une forme de prière que tu adresses à Dieu. Je te donne mon anxiété, Seigneur, de la perte de mon emploi. Je te donne mon anxiété. Ça me fait peur de perdre l'argent. Il y a des lettres qui circulent. Ça me fait peur, Seigneur. Des lettres circulent au gouvernement que ça se peut que je perde mon emploi. Seigneur, ça me fait peur, ça. Je veux te le communiquer. Je te donne mon anxiété de mourir, Seigneur. Oui, oui, j'ai peur de mourir. Je te communique ça, Seigneur. Regardez comment l'auteur du psaume 44 répand son anxiété à Dieu. Là. On pourrait même dire, il y a des gens qui jugeraient cet homme-là, de dire, « Oh, il n'est pas gêné de parler à Dieu comme ça. Il me semble qu'on ne doit pas parler à Dieu comme ça. » Sais-tu quoi? Dieu a tellement mis des prières comme ça dans les psaumes que ça nous montre que c'est ça qu'il veut. Il veut voir ses enfants s'exprimer honnêtement ce qu'ils vivent à lui. Regardez le psaume 44, verset 23, dit ceci. C'est une personne qui s'adresse à Dieu puis dit, « Dieu, lève-toi! » Lève-toi! Pourquoi dors-tu? Imagine-toi, non? Dire à Dieu qu'il dort. Est-ce que Dieu dort? Bien, lui, il a l'impression que Dieu dort. On sait que Dieu ne dort pas, mais lui, avec ce qu'il vit, il ne voit pas Dieu agir. Il ne le voit pas de ses yeux. Il ne le voit pas. Puis il dit, Seigneur, lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Il répandait son cœur à Dieu, son anxiété à Dieu. Voyez-vous? Il répand son angoisse, ses peurs, il ouvre son cœur et il exprime honnêtement ce qu'il est en train d'éprouver. Il exprime ses pensées à Dieu. Maintenant, si tu fais ça, si tu développes cette habitude-là, pas juste une fois, là, pas juste une fois, pas juste après-midi, le pasteur a dit ce matin qu'il faudrait inspirer une action de grâce, alors je vais le faire, merci Seigneur pour la belle journée, puis j'expire. Ah, Seigneur, je ne sais pas, il y a eu du trafic après-midi, je suis vraiment frustré, tout ça, je ne sais pas. Quelle que soit la frustration que tu vis. Ah, puis là, c'est fait. Non, 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 non. Si tu développes l'habitude de faire ça, voici ce qui va arriver. Paul le dit au verset 7. Si tu fais ça, si tu inspires une action de grâce et t'exprimes ton anxiété sous forme d'une requête à Dieu, voici le résultat, le verset 7, il dit « la paix de Dieu ». Si tu fais ça, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Imagine avoir le cœur en paix. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Ton cœur va rester en paix. Il va s'agiter devant l'anxiété, devant les situations, devant toi, mais si tu prends cette habitude-là d'inspirer une action de grâce, de te rappeler tout ce que Dieu fait, de compter les bienfaits que Dieu t'a donnés, et t'expires, tu donnes au Seigneur, tu déposes à ses pieds ton angoisse, tes préoccupations et tes peurs, Paul est en train de dire, voici la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi Paul parle-t-il ici de nos pensées? Pourquoi c'est si important? Verset 7, la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Bien, la Bible dit que c'est au niveau de la pensée que ça se passe. C'est là vraiment dans la tête que ça se passe. C'est là qu'on détermine la façon qu'on va voir la vie, comment on analyse les choses et notre vision du monde, comment on interprète les événements qui nous tombent dessus dans notre vie, les épreuves qu'on va vivre, tout ça. Ça se passe dans la tête, c'est nos pensées, tout ça passe là. Et nos pensées et notre cœur, ils sont fragiles, ils sont très fragiles. C'est un don que Dieu nous a donné, mais ils sont fragiles et on a besoin de les protéger, les garder. C'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment dans nos pensées qu'on va plonger dans l'inquiétude, c'est dans nos pensées qu'on va être troublé. Ça commence là, même des crises d'angoisse, ça a été prouvé, ça commence ici, dans tes pensées, la façon que tu penses. C'est comme un ordinateur, il y a des cycles. Puis là, à un moment donné, ça a un impact, même sur ta, biologiquement, puis ça affecte même ton oxygène. C'est tout biologique après, mais tout commence dans la tête, dans tes pensées. Ça commence là, et Dieu le sait. Mais là, c'est évident que vivre dans le monde, ça ne nous laissera pas indifférents, mais on va tous s'inquiéter un jour ou l'autre, Mais comment ne pas se laisser ronger par cette inquiétude-là? Comment se sortir de l'inquiétude? Bien, ça commence avec nos pensées. Maintenant, c'est ce qui est arrivé avec Anne Voskamp. C'est une décision, ça s'est passé là ici. Puis ça l'a affecté, bon sang, des années qui ont suivi, a été affectée, même physiquement. Mais tout a commencé là avec une décision qui a été prise par ses parents. Ça s'est transféré sur elle et toute sa vision du monde a été chambardée, chamboulée, et ça a commencé dans la tête, dans ses pensées. Laisser nos pensées sans surveillance, c'est dangereux. C'est pour ça que la Bible parle de du renouvellement d'intelligence. Puis c'est avec raison, parce que nos pensées sont vulnérables. Il faut protéger nos pensées. On peut s'obséder par des idées qui vont commencer dans notre esprit. Ça va avoir un impact, ça va influencer même notre cœur. Ça va avoir un impact sur notre cœur. Ça peut même avoir un impact sur notre corps. Et ça peut arriver aux chrétiens aussi. Ça va arriver aux chrétiens. Moi, j'ai mes amis, j'ai un de mes bons amis, deux de mes très bons amis. Un a fait une tentative de suicide. Le gars était trésorier dans une église, hyper impliqué, tout ça. Bon, on a mis depuis des années. Comment ça se fait? Pensez au suicide. Est-ce qu'un chrétien peut penser au suicide? Imaginez comment il interprétait sa vie. Comme on dit déjà, hein, le suicide, c'est quand tu... Quand tu as plus peur de la vie que de la mort, c'est là que tu es rendu. Un autre de mes amis, lui, a réussi. S'est enlevé la vie, a réussi. Puis plus tard, sa fille a fait la même chose. Donc, il faut garder nos pensées, il faut les protéger. Parce qu'on est vulnérable. Alors, comment gérer nos peurs et nos préoccupations? Quand on inspire une action de grâce et qu'on expire notre anxiété devant Dieu, Paul dit... Paul va donner l'image. Il dit, c'est comme installer une grosse clôture à barbelés autour de ton cœur. C'est ça que Dieu va faire. C'est ça, Dieu va placer, va garder ton cœur. Il gardera tes pensées. C'est ça, c'est un terme militaire. On s'installe autour de ton cœur, puis on a une garde, une mise en garde. Il y a des gens qui sont, on garde à vous, puis ils protègent ton cœur. Vois-tu? On a besoin de se protéger comme ça. Dieu installe une clôture autour de notre cœur qui nous empêche de sombrer dans des idées sombres et décourageantes. Puis ça va influencer toute notre façon de penser. Dans le verset qui va suivre, Paul dresse une liste de catégories pour un peu titiller notre imagination, nous aider si on a la difficulté à exercer l'inspiration d'action de grâce. Paul nous aide en nous donnant 8 catégories pour lesquelles on peut certainement être reconnaissant et mettre en pratique. Verset 8. « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé. Portez tes pensées là-dessus, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, de ce qui est digne de louange. » Et verset 9, Paul va dire « Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique maintenant. » Mets-le en pratique. Fais pas juste écouter, mets ça en pratique. Et c'est ce que Paul dit. Puis il dit, ce n'est pas un concept, c'est quelque chose de très pratique. Tu as besoin de mettre ça en pratique dans ta propre vie. Puis si tu le fais, qu'est-ce que Paul dit? Si tu le fais, si tu fais ça, Paul termine en disant, le Dieu de paix sera avec vous. La Bible nous dit que notre esprit, notre cœur sont tendres, sont compliqués, c'est complexe, et ils nous ont été donnés par Dieu. Alors, il faut les protéger. C'est la même chose avec nos enfants. Si on a des enfants à la maison, il faut protéger le cœur et l'esprit de nos enfants. Il faut faire attention de notre propre attitude, car comme on a vu avec l'attitude des parents d'Anne Voskamp, ça a eu un impact sur la vie de leur fille qui a duré pendant des années et des années. Dieu est un Dieu de grâce et Dieu est allé toucher le cœur d'Anne Voskamp. Et ça, c'est notre Dieu, Dieu de grâce. Mais comme parents, on veut faire attention à l'attitude qu'on est en train de transmettre, au témoignage qu'on est en train de donner dans le foyer chez nous. Parce que nos enfants, ils lisent bien nos attitudes. Ça comprend vite, ça nous regarde, puis ils analysent. Puis ils sont en train d'absorber dans leurs pensées comment analyser la vie, comment voir la vie. Donc, c'est important pour nous de développer ces habitudes-là. Ça commence à la maison. Alors, j'aimerais qu'on termine avec ce message. Pour que le cœur reste en paix, inspirons l'action de grâce et expirons l'anxiété. Et voici une petite vidéo qui nous montre comment Anne Voskamp l'a fait. Écoutez bien, ça va durer juste quelques minutes.
She isn't 24 hours old yet. Still that heaven scent upon her skin. When I pull her close and whisper it right into her. Whisper into her the meaning of life. The one thing she needs to know before she's as old as I am, as messed up as much as I have. Moments, I tell her this. Moments, this is all we have. Microscopic, fleeting moments. Her eyelashes flutter in dreams. And I wonder, how many moments of my life have my eyes been wide open, but I've been rushing, racing, sleeping right through? How many of the popsicle days and run and twirl and spin days? How many of the moments of melting ice cream and crazy laughter, dangling bare feet, and the setting sun igniting? The wonder of now. Someone, wake me up to the beating of wings and splashing of water, the setting of fog and twilight, the way the leaves and the childhood slip away in the woods, torched with the last of summer. I want to tell her this. You have got to figure out a way to stay fully awake. Time's blurring by. And everyone slipping past. How do we wake to the moments? How do we stop living like life is an emergency? Something to be sped wildly through. Life isn't an emergency. How do we start believing that life can be carried only in the hands of the unhurried? A bubble held in awe. How do we stop wolfing life down? Because life is our only dessert. Too brief, too sweet, too delectable to hurry. To live like a boy I once knew. Pause between bites. To wiggle his one loose tooth and whisper, I love you, Mom. And all this, all these moments, all these are for you. Isn't that the voice we have to learn to hear? The voice that is telling the whole world that the earth under you and the rain over you, and all the stars spinning all around you. This is for you, for you, for you. Your true love's smile and a nap and a patch of light, and the whir of bike spokes, and the wild rose on the sill, and that one great puff of the flickering candles. These are all for you. What if we really figured it out? The gratitude for the seemingly small and insignificant. This is the seed that plants the giant miracle in the midst of it all. So count the ways he loves, 1,000 more, never stop, so that when you wake in the morning, you can't help unfold your hands to the heavens. And though you grieve, and though you wonder, though the world is ugly, it is beautiful. And though time moves on, its moments are holy. And though the planet spins, a blur, you can slow, and you can wake, and you can trust, and you can pay attention to the moments with this offering of thanks, because this is how you spend your one life well, receiving each moment for what it really is, holy, ordinary, amazing grace, a gift.
De vous lever. On va terminer, si vous voulez bien, avec juste un cantique. Étant donné qu'on a un peu de temps, voici ce que je propose qu'on fasse. On puisse chanter le cantique. Puis tout de suite après, si vous voulez juste demeurer, on va prendre un temps. On fait rarement ça parce qu'on commence à être beaucoup dans la salle. C'est une grande assemblée, mais si on peut simplement prier ensemble, tous ensemble, un après l'autre, juste pour remercier le Seigneur. Si vous voulez, à voix haute, prier une prière de reconnaissance au Seigneur après le chant, je vais vous inviter à le faire. Puis on va chanter le refrain une dernière fois par la suite.
Couvert par le sang de l'agneau.